France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 1917, Darcy Thompson publiait un livre à la fois culte et discret, intitulé « Forme et croissance ». Ce texte a chamboulé l'histoire des sciences en posant les bases de la biophysique. Sans s'opposer au principe de sélection naturelle, Thompson propose que des contraintes mécaniques et physiques universelles sont les seules responsables de l'immense mosaïque de formes que l'on retrouve à toutes les échelles du monde vivant. Comment cette œuvre a-t-elle transformé notre regard sur l'immense variété des formes vivantes ? Science Chrono ouvre les pages aujourd'hui de ce bijou de la littérature scientifique qu'est forme et croissance. Bonjour Thomas Lecuy.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes biologiste, chercheur à l'Institut de biologie du développement de Marseille, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire dynamique du vivant et fondateur et directeur du Centre Turing des systèmes vivants. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avant de parler de forme et croissance et de la façon dont il a modifié notre compréhension de la morphogenèse, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous décrypterons les graffitis de Pompéi. On verra comment, grâce à une nouvelle technique de photographie, ces messages gravés dans les murs reprennent vie et nous donnent un aperçu de la vie quotidienne des habitants de cette cité antique. Mais avant d'aller à Pompéi et de décrypter ces messages, on va essayer de répondre à une question qui a hanté les naturalistes et les biologistes depuis fort longtemps. Comment expliquer la multitude des formes du vivant ? C'est l'une des grandes questions que se pose Darcy Thompson dans son ouvrage « Forme et croissance » paru en 1917. Et avant de nous plonger dans ce livre avec vous, Thomas Lecuy, j'aimerais tout d'abord qu'on parle de ce personnage qu'était Darcy Thompson, qui est un personnage à la fois très érudit, assez attachant, qui est né en 1860, un an après la parution de l'Origine des espèces de Darwin. Qu'est-ce qu'on peut dire de son parcours et de ce qui l'a mené finalement à publier ce « Forme et croissance » ?
Tout à fait. Alors, son parcours est à la fois tout à fait classique et en même temps, l'individu est tout à fait original, comme vous le disiez. Classique parce que il étudie, donc né en 1860, il étudie à Édimbourg où il est né, puis à Cambridge. À Édimbourg, il étudie la médecine. À Cambridge, à Trinity College, il étudie la zoologie. Donc voilà une personne qui, curieux, intéressé par le vivant, s'intéresse aux choses qu'on étudie à l'époque, à savoir les formes animales, invertébrées, vertébrées. Mais il avait aussi un père helléniste. Et on verra que cette filiation peut-être est à l'origine d'une forme d'érudition dans le domaine de la littérature. C'est quelqu'un qui était très lettré. Dans l'ouvrage dont on va parler, il cite, sans les traduire, les grands philosophes grecs, mais également des auteurs allemands, philosophes allemands, en français, sans aucune traduction, sans même parfois citer ses sources, sous-entendant que tout le monde devait connaître, comme lui, en fait, ses références bibliographiques. Donc, quelqu'un d'extrêmement cultivé, très érudit, qui avait une très belle plume, qui écrivait de façon magnifique, que l'on voit certainement dans la version anglaise, mais également dans les traductions en français qui sont disponibles. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui était un érudit, un curieux et un excentrique. Un érudit, je viens de le dire, un curieux parce qu'il s'intéressait à toutes les formes du vivant et un excentrique parce que, par exemple, il se baladait dans les rues de Dundee où il était professeur pendant 32 ans avec un perroquet sur son épaule, quelqu'un qui avait aussi des chaussures de sport, ce qui n'est peut-être pas la coutume à l'époque. Voilà, donc quelqu'un de tout à fait attachant par son originalité. Ouais.
Et la légende dit même qu'il aurait pu être en même temps titulaire d'une chaire de lettres classiques, titulaire de la chaire de mathématiques et de la chaire de zoologie. Thomas Lecuy, si on se pose cette question avec Darcy Thompson au moment où il se la pose de ces formes du vivant, de cette multitude des formes du vivant, dans quel espace intellectuel se posait cette question-là ? Comment on répondait à cette question de la multitude des formes du vivant à l'époque où il se lance dans l'écriture de Forme et croissance ?
Alors, je pense qu'il faut effectivement s'arrêter sur le contexte des sciences du vivant. Je pense d'ailleurs, il est important de se rappeler que l'invention du terme biologie, l'étude du vivant comme discipline propre, remonte simplement à 1804, donc en gros un gros siècle avant lui, sous plume de Lamarck. En fait, au 19e siècle, donc dans les années où il naît, où il se forme, on voit déjà une première chose, le renforcement du physicalisme au détriment des théories vitalistes. Tout cela avait un lignage ancien au 18e siècle, avec des auteurs matérialistes, Buffon, Maupertuis, et Diderot en France, et à l'orée du XIXe siècle, des auteurs comme Lamarck, puis contemporains, enfin précédents un peu Darcy Thompson en France, Pasteur, puis Claude Berlard sont vraiment des auteurs qui assoient, établissent, approfondissent cette vision matérialiste du vivant. Voilà. Mais en même temps, dans le domaine de l'embryologie, de l'étude des formes embryonnaires, on voit encore des débats qui existent à la fin du 19e siècle entre les gens qui défendent cette théorie mécanique comme Wilhelm Rux, hein, et de l'autre Hans Driesch, étudiant les oursins, qui défend une vision plutôt vitaliste, c'est-à-dire que les formes sont orientées vers une fin. Donc le concept de cause finale, hein, qui remonte à Aristote, versus pour Wilhelm Rux, les causes efficientes, les causes mécaniques proprement physiques des choses. Donc on voit déjà à l'orée du travail du livre de Darcy Thompson des débats encore importants entre mécanisme et vitalisme. C'est la première chose.
Vous évoquiez tout à l'heure, Thomas Lecuit, la grande érudition de Darcy Thompson. On entend déjà des grands noms de l'histoire des sciences dans votre propos. Ce sont des noms et des concepts et des pensées finalement que mobilise Darcy Thompson dans Forme et croissance. Quelles sont les principales sources auxquelles il puise pour écrire Forme et croissance, si on doit citer les plus importantes?
Je dirais que il n'y a pas de référence à des auteurs particuliers particulièrement importants du domaine de l'embryologie. Ce qui est assez frappant quand on lit les pages de Forme et croissance, c'est que finalement c'est très descriptif. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché. C'est très phénoménologique, dirait-on aujourd'hui. Il décrit lui-même son ouvrage comme finalement une préface. C'est dans la préface de son livre qu'il dit finalement que tout ce livre n'est qu'une préface. Il y a des références plutôt littéraires, mais son propos est proprement descriptif. Il n'essaye pas de disputer, de comparer en fait ses propositions à des expériences qui ont eu lieu juste avant lui. Et donc, il y a quelque chose qui, d'un point de vue de la forme académique, est assez inhabituel. Ce n'est pas comme un article scientifique où l'on confronte en fait un savoir à un autre, à des observations. Il expose ses observations et il développe, le long de ces centaines de pages, sa vision mécanique, purement physique, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile d'identifier un auteur auquel il se référait, mais je préfère situer vraiment les grands champs de discussion conceptuelle qui avaient cours à l'époque, savoir cette opposition entre physicalisme et vitalisme. Physicalisme était dominant, mais encore présent un tout petit peu dans la vision de certains, notamment Hans Driesch. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est l'opposition entre, dans les théories de l'embryogenèse, entre préformation et épigénèse. C'est un vieux débat qui remonte aux philosophes grecs. Hein. L'épigénèse, c'est l'idée que les formes développementales, un embryon, se développe par une élaboration progressive de la forme à partir d'un œuf. Alors que la préformation, c'est l'idée que les formes sont créées à l'origine par un dieu créateur et qu'après, elles se déploient simplement par accroissement, comme un déploiement, et que donc, dans un œuf, il y a toute la préfiguration des formes futures, comme des poupées russes qui seraient emboîtées depuis l'origine. Alors, ce qui se passe, c'est que la préformation, c'est un modèle qui, généralement, est mécanique. Voilà. On invoque des forces physiques, mais c'est un modèle mécanique. Alors que l'épigénèse est souvent associée à une vision vitaliste des choses. Au XVIIe siècle, un grand auteur, William Harvey, en Angleterre, défend cette vision de l'épigénèse d'un côté, et lui-même était vitaliste, pétri de philosophie aristotélicienne. Donc ça, c'est un autre grand débat. Est-ce que les formes s'élaborent progressivement? Et à vrai dire, tout le XIXe siècle a vu comme l'accomplissement d'un effort pour conjoindre cette description épigénétique du développement de l'embryogenèse, de l'émergence des formes, et par ailleurs d'une explication mécaniste ou physicaliste, dirait-on, du développement. C'est-à-dire qu'il n'invoque pas un principe autre que la physique, donc qui rejette le vitalisme. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et évidemment, Darcy Thompson, par sa vision très physique des choses, se réclame de cette vision mécanique du monde. Et donc, c'est important d'avoir bien à l'esprit cette opposition entre les deux, dont on verra encore quelques traces, même au début du XXe siècle, à peu près à l'époque où Darcy Thompson écrit son livre.
Puisqu'on parle, Thomas Lecuit, de ce 19e siècle, et qu'on n'a pas encore, voilà, on n'a pas donné toute la liste des penseurs, finalement, qui pourraient être mobilisés par Darcy Thompson, on peut quand même parler d'un personnage central. Quand on parle du développement du vivant, on peut parler de Darwin. Comment se positionne, finalement, Darcy Thompson vis-à-vis de la théorie de l'évolution, et comment il va, lui, dialoguer avec Darwin dans son ouvrage?
Alors, tout à fait. Donc, effectivement, le troisième grand volet, celui sur lequel j'allais venir, c'était effectivement Darwin. Alors, Darwin n'est pas quelqu'un qui étudie le développement, mais il est quelqu'un qui étudie pourquoi les formes biologiques sont-elles ce qu'elles sont. Et ce qui est très important dans Darwin, c'est que d'un côté, il parle de théorie de la sélection naturelle des formes. Il abandonne d'un certain côté toute vision téléologique, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une fin qui explique dans ces mécanismes l'émergence d'une forme. Mais d'un autre côté, néanmoins, l'explication darwinienne des formes, c'est l'idée que finalement, une forme telle qu'elle se présente, c'est en vertu du fait qu'elle a été sélectionnée pour une fonction particulière. Et donc, cette fonctionnalité qui assure la survie de l'organisme est finalement, comme on pourrait le voir, comme une façon cachée, comme une forme d'explication finaliste des choses. C'est ce en vue de quoi l'organisme. C'est sûr, en vue de cette fonctionnalité particulière que la forme existe. S'il n'y avait pas de fonction, il n'y aurait pas de forme particulière. Et cette vision que Darwin a défendue, hein, l'idée que les formes sont fonctionnelles, elles sont sélectionnées pour cela, donne de façon même cachée une certaine téléologie. Et d'ailleurs, dans sa préface, Darcy Thompson dit cette chose, avec Darwin, on a une vision téléologique, mais sans télos, c'est-à-dire sans mécanisme finaliste. On a néanmoins comme la permanence une vision finaliste des choses. Et c'est ce à quoi il s'oppose, en disant finalement, au lieu de proposer cette explication en vue d'une fonction, d'accord, moi j'essaie de rendre compte, dit Darcy Thompson, de l'espace possible des formes, les causes physiques, les causes efficientes qui sont à l'origine de ces formes. Et donc, pour résumer, on pourrait dire que Darwin essaie d'expliquer pourquoi telle forme est là en fonction en vertu d'une certaine fonction biologique qui assure la survie, alors que Darcy Thompson essaie de rendre compte de l'ensemble de l'espace des formes possibles selon pour des raisons simplement physiques. Ce sont donc deux questions différentes. L'une serait une forme de pourquoi telle forme existe, pourquoi un oiseau a-t-il des ailes? Ben c'est pour voler. Voilà bien une explication fonctionnelle. Mais quels sont les types de formes qui permettent le vol? Voilà une question physique auquel Darcy Thompson veut répondre.
Et pour comprendre le développement que file Darcy Thompson tout au long de son livre, je vous propose justement d'écouter une sélection de passages de l'introduction de son livre Forme et croissance. Une sélection qui a été réalisée par vous, Thomas Lecuy. On l'écoute, c'est l'archive de Science Chrono. Les termes forme et croissance qui composent le titre de ce petit livre doivent être compris dans leur rapport avec la science des organismes. Nous voulons voir comment, dans certains cas du moins, les formes des êtres vivants et celles des parties des êtres vivants peuvent être expliquées par des considérations physiques et comprendre que, de manière générale, aucune forme organique n'existe si ce n'est en conformité avec les lois physiques ordinaires. La forme, dès lors, de toute portion de matière, qu'elle soit vivante ou inerte, ainsi que les changements de forme qui se manifestent dans ses mouvements et dans sa croissance, peuvent dans tous les cas être décrits comme résultant de l'action de force. Fondamentalement, la forme d'un objet est un diagramme de force, en ce sens du moins que l'on peut, à partir d'elle, juger ou déduire quelles forces agissent ou ont agi sur cet objet. L'observation d'une cellule vivante, d'une amibe ou d'une spirogyra, nous révèle quelque chose qui manifeste certains mouvements actifs et une forme fluctuante plus ou moins durable. Et sa forme, à un instant donné, tout comme ses mouvements, doit être étudiée à l'aide de méthodes physiques et expliquée par l'invocation du concept mathématique de force. La morphologie, dès lors, n'est pas seulement l'étude des choses matérielles et des formes des choses matérielles. Elle possède aussi un aspect dynamique, dans lequel nous cherchons à interpréter, en termes de force, les opérations de l'énergie. Et il vaut la peine de remarquer ici que, lorsqu'on traite des faits de l'embryologie ou des phénomènes de l'hérédité, le langage habituel des ouvrages semble accorder trop d'importance aux éléments matériels comme cause du développement, de la variation ou de la transmission héréditaire. La matière, en tant que telle, ne produit rien, ne change rien, n'accomplit rien. Et si, par commodité, il est ensuite possible d'abréger notre nomenclature et nos descriptions, nous devons cependant reconnaître avec le plus grand soin, dès le départ, que le spermatozoïde, le noyau, les chromosomes ou le plasma germinatif ne peuvent agir comme simple matière, mais seulement comme siège d'énergie et centre de force. Voilà Thomas Lecuy, ce texte que vous connaissez bien puisque vous avez vous-même pioché des passages dans l'introduction de Former Croissance pour composer cette archive pour Science Chrono. Pourquoi avoir fait ce choix-là de texte? Qu'est-ce qui se dessine en matière de programme scientifique dans cette archive?
Alors effectivement, l'introduction, enfin la préface de ce livre duquel sont extraits ces passages, expose à vrai dire le programme de Darcy Thompson et en particulier l'idée d'une explication des formes selon des causes proprement physiques dans un langage que les mathématiques et en particulier la géométrie explicitent. Un concept particulier, enfin les grands concepts que l'on va sortir, c'est le concept de force physique et le concept d'énergie d'ailleurs, desquels les forces dérivent. Et en particulier cette expression qu'il utilise, l'idée de diagramme de force, c'est-à-dire que si l'on prend une forme particulière à tout moment, on peut en rendre compte par l'équilibre des forces qui agissent sur le matériau. Alors prenons un exemple. Un exemple par exemple d'une sphère, d'une bulle par exemple, une bulle de savon. Cette bulle de savon est sphérique et la sphéricité de cette bulle provient en fait de l'équilibre des forces de tension superficielle et de la pression à l'intérieur, de la pression entre l'intérieur de la bulle et l'extérieur, et l'équilibre de ces forces parfaitement régulier donne naissance à cette courbe, à cette surface, on dit une surface minimale qui est la sphère. Et donc il y a souvent des solutions mathématiques à une équation d'équilibre des forces. Donc le concept physique central, c'est le concept d'équilibre de force qui est toujours assuré, et la forme mathématique de l'objet qui en découle est la forme que l'on observe dans le vivant. Donc finalement, en utilisant les mathématiques et un concept physique central qui est l'équilibre des forces, Darcy Thompson prétend pouvoir expliquer la forme d'une cellule, la forme d'un assemblage de cellules dans un petit organisme, etc., etc. Donc, c'est la première chose. Et puis, il y a un commentaire qui me semble... Et donc, je voudrais souligner que cette explication est aussi simple qu'elle est universelle et unifiante. On peut unifier des processus très divers, des formes très diverses, en utilisant, en ayant recours à des concepts physiques simples. Et je pense que c'est peut-être cela ce qui est le plus original. Comme vous le disiez dans votre introduction à cette émission, ce qui frappe, c'est la diversité du vivant. Les formes sont multiples à toutes les échelles. Et néanmoins, un regard attentif permet de déceler qu'il y a des formes récurrentes. Je vais donner un exemple. Des polygones. On peut voir des formes polygonales à la surface de la carapace d'une tortue, sur les cellules qui forment notre épithélium, l'intérieur de notre intestin ou la peau, ou à la surface de certaines plantes. Voilà. Et donc, ces formes géométriques, on peut se demander d'où viennent-elles. Et bien, Darcy Thompson offre par ce diagramme de force et ce principe physique et les mathématiques qui le décrivent une explication très simple à ce caractère unifiant, universel, on va dire, des formes, cette géométrie universelle des formes. Elle s'explique naturellement dans le langage de la physique, quand bien même les matériaux qui le constituent, la matière, peut être tout à fait différente.
Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage.
Le sens de cette dernière phrase, j'en finis là, c'est que la matière, comme il dit, et je vous recite, ne produit rien, ne change rien, n'accomplit rien. Ce qui est important, c'est l'énergie et le centre des forces dont le support est la matière.
Ce qui est passionnant dans cet ouvrage Former Croissance de Darcy Thompson, c'est qu'il y a à la fois ce côté très conceptuel, on parlait de diagramme de force, un concept qui est souvent qualifié de révolutionnaire dans l'histoire de la biologie, mais il y a aussi des éléments très concrets, il s'appuie sur beaucoup d'exemples, il se pose des questions aussi simples que finalement pourquoi les insectes ne peuvent-ils pas être géants? Ça, c'est des questions auxquelles il apporte des réponses très simples à partir de sa théorie.
Exactement. Donc effectivement, le premier chapitre du livre, c'est sur les grandeurs, c'est-à-dire que il s'interroge sur le fait que le vivant se manifeste d'une bactérie toute simple qui fait un micromètre, un millionième de mètre, jusqu'à un éléphant ou même les baleines bleues. Lui qui était spécialiste des animaux marins, il les connaissait bien. Et ce premier chapitre est magnifique parce qu'il descend les échelles. Il commence par les grands organismes, puis il adopte ceux que, comme nous, puis il s'intéresse à des organismes de taille intermédiaire comme des méduses, et enfin aux simples bactéries. Et il décrit en fait qu'il y a une propriété très très simple, très évidente, que tout le monde peut comprendre. La masse ou la taille d'un organisme se décrit comme son volume. Et le volume, on apprend cela à l'école, c'est en gros comme le cube de la distance. On multiplie 3 fois les distances et c'est ça qui donne un volume. Alors que la longueur, sa taille, selon une certaine dimension, eh ben, c'est la longueur elle-même. Voilà. Et donc, quand on fait le rapport entre la surface d'un objet et son volume, on voit que lorsque l'organisme est plus grand, eh bien, cette grandeur décroît. Ce qu'on appelle, c'est que le rapport entre la surface et le volume décroît avec la taille. Un éléphant, par exemple, va avoir proportionnellement moins de surface pour son volume qu'une petite souris. Et ça a des conséquences très fortes en termes des contraintes mécaniques, parce que certaines forces, comme la gravité, par exemple, agissent sur le volume. Elle est proportionnelle à la masse et donc au volume. Donc, les gros organismes vont avoir des contraintes liées à l'action des forces de gravité, alors qu'un tout petit organisme, l'organisme même qui vivrait dans l'eau, lui ne va pas être soumis à la gravité. Et donc, il a tout un argument très intéressant sur les proportions, sur la section de la taille des pattes d'un éléphant par rapport à une petite souris, en utilisant justement ces règles géométriques fondamentales, le rapport surface sur volume, comme je disais, et le fait que, comme certaines forces, comme les forces de gravité agissent, sont proportionnelles au volume, eh bien, il va y avoir un impact de la gravité sur les grands organismes, alors qu'un organisme qui vit dans l'eau comme une méduse va être régi par une force de surface, ce qu'on appelle la tension superficielle, qui est un concept très important. Et donc, on a un argument géométrique élémentaire qui permet d'expliquer pourquoi certains types de forces jouent sur les formes de certains organismes et pourquoi pas sur d'autres. Et
Thomas
donc, c'est
Lécuit.
selon ces critères-là qu'il peut expliquer pourquoi certains organismes comme les insectes ne peuvent pas avoir des tailles plus importantes que quelques dizaines de centimètres pour les plus grandes libellules qu'on a connues dans les fossiles. Parce qu'au-delà de ça, en fait, leur carapace ne serait pas capable de soutenir, en fait, leur rigidité, d'assurer la rigidité nécessaire à ces organismes.
J'aimerais, Thomas Lecuit, puisqu'on parle beaucoup de géométrie, qu'on parle aussi des métamorphoses mathématiques qu'accomplit Darcy Thompson dans son ouvrage. Il va puiser, lui, du côté d'un grand artiste, Dürer, et il va reprendre une technique d'anamorphose pratiquée par Dürer pour expliquer aussi l'évolution de certaines formes d'espèces parentes, cousines. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette approche-là et de ce travail, finalement, à la croisée entre perspective, géométrie, mathématiques et biologie?
Ah, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement le dernier chapitre de Forme et croissance sur ces transformations des formes. Et là, en fait, ce que effectivement Darcy Thompson est très inspiré par des dessins de Dürer, ce qu'il étudie, c'est la chose suivante. Une forme biologique peut être très complexe, et lorsqu'on étudie des formes apparentées, comme des squelettes ou des crâne, par exemple, de primates différents comme Homo sapiens et puis chimpanzés ou orang-outans, eh bien, on peut voir que ces formes sont assez proches et ils n'étudient pas non pas la forme mathématique d'une forme donnée, mais qui peut être très complexe, mais comment finalement on passe d'une forme à une autre moyennant des transformations continues. Et ces transformations de forme, elles sont très très simples. Et il étudie, en fait, en utilisant un quadrillage, un système de coordonnées, comment peut-on déformer le système de coordonnées pour passer continuellement d'une forme à une autre. Et c'est là, effectivement, qu'il trouve une inspiration dans certains dessins de Dürer, où, étudiant les visages des hommes qu'il dessinait, bah, montrait que les différents types de visages chez les humains, en fait, correspondent à des changements de proportions subtiles entre différents types de, voilà, sur le visage en particulier, qu'il dessine et qu'il cite dans son ouvrage, la proportion du nez versus du front et du menton, hein, qui suit certaines règles moyennes, mais qui varie d'un individu à l'autre. Et donc, il généralise ce concept pour étudier les transformations des formes. Et ces transformations des formes sont encore accessibles mathématiquement d'une façon simple. Et l'argument conceptuel important de Darcy Thompson est de dire que s'il existe des transformations mathématiques simples pour passer d'une forme à une autre, alors il suffirait de considérer que l'équilibre des forces, ce diagramme des forces dont on parlait avant, peut subtilement changer d'un organisme à l'autre. Et c'est cela qui pourrait rendre compte, non pas simplement de l'émergence d'une forme, mais des variations de forme dans une perspective
Et
évolutionniste.
c'est là où on voit
Et
qu'il y a un
donc finalement,
contrepoint original à la théorie de Darwin, finalement, puisque là, dans ce cadre-là, finalement, l'évolution agit sur l'organisme comme un tout géométrique et pas seulement par des mutations isolées. Et on voit que le dialogue ici est vraiment subtil avec Darwin.
Exactement. Et on voit bien d'ailleurs déjà qu'il ne s'oppose pas à l'idée de l'évolution. Il l'accepte comme un fait. Donc là, il ne faut pas commettre de contresens.
Il n'y a pas
Darwin
d'opposition.
était quelqu'un qui... Ac... Non, il acceptait parfaitement l'existence de l'évolution. Et simplement, il doutait de la possibilité de rendre compte d'une façon totale, pleine et entière de l'évolution des formes par un mécanisme qui d'ailleurs, à l'époque, n'était Au moment où il écrit son livre, on commençait à comprendre la génétique. Donc, ce que Darwin avait proposé en termes d'évolution des formes, Darwin ne connaissait pas la génétique telle que la connaissait Darcy Thompson. Et la grande synthèse qui a lieu après l'explication génétique de l'évolution. Mais le point important, c'est comme je le disais au début, il n'essaie pas d'expliquer les formes simplement par un processus de sélection en raison de critères fonctionnels, mais il essaie de comprendre les causes premières, les causes efficientes, dirait-on, à la suite de Descartes, c'est-à-dire les mécanismes physiques qui rendent compte de cette évolution des formes. Alors aujourd'hui, avec un grand recul, des années, des décennies après, un siècle après, à vrai dire, on pourrait dire qu'on peut tout à fait expliquer en fait, les actions physiques des formes à partir des mutations génétiques. Mais peut-être qu'on pourra en parler brièvement dans les 2 minutes qui suivent.
Avant ça, Thomas Le Cuy, moi je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de dire finalement, là on a expliqué la dimension à la fois originale, peut-être un peu marginale aussi, de Darcy Thompson, qui explique finalement, si on résume à gros traits, que la question des formes du vivant relève des maths et que leur évolution relève de la physique. Quelle réception ce travail-là qu'elle va avoir chez les biologistes à l'époque en 1917. Est-ce que c'est un travail qui est considéré avec sérieux ou bien est-ce que les biologistes finalement regardent ça de loin?
Je pense qu'à quelques exceptions près comme Waddington, Junior Lewis, qui se sont intéressés à des questions de forme d'un point de vue génétique pour Waddington, la grande majorité des biologistes contemporains de Darcy Thompson et après, en fait, a largement ignoré, soit qu'ils ne le connaissaient pas, soit qu'ils n'ont pas considéré son travail. Darcy Thompson n'a pas eu un gros impact sur les biologistes du XXe siècle, biologistes qui, eux, ont contribué en fait à l'explosion de compréhension génétique du développement dans les années 70, 80, 90. Donc la découverte de Darcy Thompson, la redécouverte de Darcy Thompson a eu lieu en gros un siècle après lui, je veux dire depuis 25 ans, à l'orée du 21e siècle.
Et ce qui est intéressant aussi, Thomas Le Cuy, c'est en préparant cette émission, Thomas Le Cuy, je vous interromps.
Ont eu véritablement une contribution importante à la morphogénèse, à savoir Alan Turing, le mathématicien, Hans Meinhardt dans les années 70, et le titre de son livre, son dernier livre, La beauté algorithmique des formes, de Hans Meinhardt, parlant des coquillages, on en voit ici un héritier direct de Darcy Thompson. Mais c'était lui-même aussi un marginal, qui n'a pas été bien reconnu par les biologistes. Donc, il faudrait plus de temps pour développer cette tension sociologique de compréhension, de mode explicatif entre même les biologistes contemporains et les physiciens. Mais en tout cas, il a eu un impact auprès de certaines personnes, mais comme différé. Je pense que c'était un précurseur, quelqu'un dont l'impact se mesure plutôt aujourd'hui et de façon tout à fait accélérée depuis 25 ans où les physiciens sont entrés dans le domaine de la biologie et ont contribué à l'explication des formes.
Et c'est un précurseur aussi humble puisqu'en 1917, quand Forme et croissance sort, c'est pas non plus un livre qui est distribué de façon colossale. Il sera revu et corrigé par Darcy Thompson lui-même en 1942. Darcy Thompson meurt en 48. Il reçoit finalement les honneurs un peu sur le tard dans sa vie. Oxford le fera docteur honoris causa en 1945. On arrive à la fin de cette émission, Thomas Le Cuy. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous parler de cet ouvrage original, beau, très, sous plein d'aspects, qu'est Forme et croissance. Et je vous dis à très bientôt dans Sciences Chrono. Slip. Fall.
open their eyes, they'll be blind to the beauty, but march on the heart of this land. Oh, oh. Why don't you turn around and go home? They invade your minds and then fill them with nonsense, these things that a man doesn't need.
Colors and Shape par Mac Miller dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé des formes du vivant, on va parler d'autres formes représentées, elles, sur les murs de Pompéi.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Ensevelie par l'éruption du Vésuve en l'an 79, Pompéi ne cesse d'offrir aux archéologues un portrait vivant de l'Antiquité romaine ainsi qu'une quantité d'informations subtiles sur la vie quotidienne à cette époque. Avec le projet de recherche Bruit de couloir, un aspect en apparence anecdotique de la vie quotidienne des Pompéiens est porté à notre connaissance, celui des graffitis qu'ils gravaient en grand nombre dans l'espace public. En cartographiant ces graffitis, écrits ou dessinés dans les enduits peints d'un couloir reliant les deux théâtres de Pompéi, les scientifiques qui portent ce projet nous donnent à comprendre non seulement la tonalité des échanges entre les habitants de cette ville, mais aussi à rentrer dans ce haut lieu de l'histoire antique par la porte de la micro-histoire et de ces traces humbles, tantôt comiques, tantôt sensibles, dont on cherche à comprendre la cohérence d'ensemble. Qui étaient les auteurs de ces graffitis de Pompéi? À quelle réalité quotidienne au pluriel nous renvoient ces inscriptions? Et comment les analyser dans leur unité mais aussi dans leur globalité? Voilà les grandes questions que nous allons nous poser ensemble aujourd'hui avec vous, Héloïse Letellier-Taillefer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire de l'art et archéologie du monde romain à Sorbonne Université et vous êtes par ailleurs co-responsable avec Louis Autin et Marie-Adeline Le Guénec du projet Bruit de couloir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de ce très beau sujet de recherche. Pompéi, ça fait partie des sites archéologiques les plus célèbres au monde, mais tout de même, on peut peut-être donner quelques éléments de présentation un peu rapide pour comprendre son importance pour vous, archéologue.
Effectivement, c'est un peu un des sites archéologiques emblématiques et on parle parfois aussi d'un des lieux de la naissance de l'archéologie comme discipline puisque la découverte de Pompéi et des autres sites ensevelis par le Vésuve, Herculanum, Stabie et puis les villas de leur territoire a donné lieu à une évolution des méthodes de fouilles et à des découvertes d'une ampleur inédite qui ont renouvelé le regard sur l'Antiquité et mis en avant l'apport de l'archéologie, des vestiges eux-mêmes. Alors c'est effectivement un site qui est fascinant et qui est visité par des millions de visiteurs chaque année pour ça. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est aussi une ville très particulière qui a son histoire propre, une histoire au long cours. C'est une ville samnite à l'origine, peuplée par des populations donc italiques, d'Italie du Sud. On est en Campanie, hein, au sud de Naples actuellement. Fondée au 6e siècle avant Jésus-Christ, sans doute. On connaît un peu moins les périodes les plus anciennes. Et qui était au contact d'autres civilisations en Italie du Sud à cette époque, des cités grecques de Grande Grèce, les Étrusques qui étaient présents aussi dans la région, et puis bien sûr les Romains qui ont développé leur influence en Italie, notamment et encore plus à partir du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc Pompéi est passée seulement progressivement sous domination romaine et elle devient une colonie de Rome autour de 80 avant Jésus-Christ après la guerre sociale. Donc il faut aussi relativiser un peu l'image de la ville romaine par excellence.
C'est une ville assez banale.
C'est une ville à la fois banale et à la fois qui a une histoire particulière, qui est dans une zone sismique, qui a été ravagée par un séisme en 62-63 après Jésus-Christ, donc une quinzaine d'années avant l'éruption.
Qui annonçait finalement l'éruption.
Qui annonçait certainement l'éruption. Et qui était donc un immense chantier de travaux publics et privés pendant les 15 dernières années. Donc c'est un site très particulier. Et puis, archéologiquement, c'est un cas extraordinaire à cause ou grâce à, selon le point de vue de cette éruption du Vésuve.
Alors, on ne va pas rappeler toutes les merveilles qu'on a découvertes à Pompéi, les fresques ou même ces vestiges matériels assez touchants, ou bien même les personnes qu'on y a retrouvées saisies par cette éruption du Vésuve. On va se pencher tout de suite sur notre objet, sur l'objet de notre discussion, ces graffitis antiques. De quoi parle-t-on concrètement quand on parle de graffitis à l'Antiquité ?
Alors, le terme de graffiti, il a d'ailleurs été inventé pour parler des inscriptions qui nous occupent aujourd'hui par un jésuite qui s'appelle Raffaele Garrucci au milieu du 19e siècle. On désigne, c'est une expression moderne, c'est une catégorie moderne qui désigne des inscriptions spontanées manuscrites qui ont été tracées, pour celles dont on parle ici, dans les enduits peints de la ville. Donc, tous les murs intérieurs, extérieurs, en tout cas une bonne partie d'entre eux, étaient couverts d'enduits peints à la fresque, qui avaient des surfaces très lisses, souvent colorées. Et on gravait dans cet enduit qui était très dur, avec une pointe, un clou, on ne sait pas très bien, des textes, des images, et on en trouve partout dans Pompéi.
C'est une pratique extrêmement fréquente dans tout le bassin méditerranéen,
et dans toutes les villes antiques. Effectivement, dans toute l'Antiquité. Alors, on en trouve aussi sur d'autres supports, ça peut être aussi sur des objets, mais écrire sur les murs est en tout cas une activité particulièrement bien représentée dans les villes romaines.
Quand on pense à l'Antiquité, on pense à toutes ces sources très nobles, des sources littéraires. Là, on a tout d'un coup quelque chose de beaucoup plus populaire, beaucoup plus direct, beaucoup plus spontané en même temps, de pas plus simple à interpréter.
Exactement. Alors, c'est effectivement une masse de textes assez impressionnante qui sont assez lacunaires, généralement, parce que les enduits peints ne sont pas toujours conservés. Parfois, on a des fragments et puis il nous reste des morceaux de textes. Leur forme est difficile à lire, puisque ce sont souvent des écritures cursives qui ont évolué au fil du temps, qui sont l'œuvre de personnes qui écrivaient avec plus ou moins d'aisance et qui lisait avec plus ou moins d'aisance. Donc à déchiffrer, c'est toute une discipline particulière, une sorte de sous-discipline de l'épigraphie qui est la science des inscriptions en général et notamment des inscriptions officielles gravées dans le marbre qui sont un autre écho de cette pratique.
Quand on pense au graffiti, on a tout de suite tendance finalement à avoir un regard très contemporain sur cet objet, sur sa matérialité et puis sur son caractère subversif. Est-ce que dans l'Antiquité, c'était subversif de réaliser ces graffitis un peu partout sur les murs des villes.
Alors, bon, c'est difficile à savoir. On a pas beaucoup de documents qui nous donnent le ressenti sur ces graffitis. Un témoignage du fait que ça ne devait pas être si subversif que ça, c'est qu'il y en a partout et qu'on n'a pas spécialement cherché à les effacer, à les interdire particulièrement. Même si on a quelques textes qui montrent un regard critique quand même sur cette pratique. À Pompéi, il y a une inscription, un graffito qu'on retrouve dans plusieurs exemplaires dans la ville, dont un d'ailleurs sur un des murs du Grand Théâtre, qui dit « Ô mur, je m'étonne que tu ne sois pas encore tombé sous tant de bêtises qui ont été écrites sur toi », qui montre que voilà, il y a quand même un côté subversif et dans les inscriptions elles-mêmes, il y a évidemment une tonalité parfois joueuse, subversive. Mais dans notre couloir dont on va parler, on n'a pas refait l'enduit en 120 voire 150 ans, ce qui montre que c'était pas très problématique.
C'est vraiment une sorte de palimpseste aussi. On
Exactement.
A une vision de l'évolution de la ville à travers ces graffitis. On va parler bien sûr de ce couloir qui relie les deux théâtres de Pompéi où on retrouve beaucoup de graffitis. Mais vous le disiez, on retrouve des graffitis partout dans la ville. Est-ce qu'il y a des endroits où on en trouve plus que d'autres?
Alors, on en trouve... Ils sont dispersés vraiment dans toute la ville, c'est-à-dire dans les maisons, dans les espaces privés, dans les rues, sur les façades, etc. Là où on trouve le plus de concentration, c'est-à-dire où on a des accumulations de graffitis, c'est dans des espaces sans doute particulièrement fréquentés et qui s'offrait plus facilement à cette activité. Les autres lieux de concentration avec le couloir des théâtres qui nous occupe, c'est la basilique, un édifice couvert sur le forum qui servait à toutes sortes d'activités communes de la cité, et la grande palestre qui est un espace d'entraînement en plein air à côté de l'amphithéâtre à une autre extrémité de la ville.
Alors Héloïse Letellier-Taillefer, je parlais de ce projet de recherche que vous copilotez qui s'appelle « Bruit de couloir ». Le couloir. Décrivons ce couloir-là qui relie les deux théâtres. Quelles sont ses dimensions? Quelle est finalement sa position entre ces deux espaces de spectacle?
Alors, on est dans un quartier de la ville qu'on a parfois appelé le quartier des théâtres, puisque Pompéi était équipé, en tout cas à la fin de sa vie urbaine, de deux théâtres. Un grand théâtre construit à la période samnite, sans doute au IIe siècle avant Jésus-Christ, un grand théâtre en plein air, et un petit théâtre couvert qui a été ajouté juste à côté au moment où la ville est devenue une ville romaine. Ces deux théâtres sont voisins, au sein d'un îlot qui est situé au sud de la ville, à côté d'un des plus anciens sanctuaires, celui du Forum Triangulaire, et d'une porte qu'on appelle la porte de Stabie, qui est une sortie de la ville par un des axes principaux, la rue de Stabie. Ces deux couloirs sont accessibles par différents accès pour permettre aux milliers de personnes qui les fréquentaient pendant les spectacles d'entrer et de sortir efficacement. et notamment par un couloir qui, dans lequel on entre depuis la rue de Stabie. C'est un couloir qui fait 27 mètres de long à peu près, sur environ 3 mètres de large, qui était probablement couvert, même si on a encore des doutes, et l'étude continue sur cet aspect d'archéologie du bâti, et qui donnait, quand on l'empruntait jusqu'au bout, dans le Grand Théâtre, on arrivait par une entrée latérale dans le Grand Théâtre, et puis si on empruntait une des deux portes qui s'ouvrent dans le mur sud de ce couloir, on montait par des escaliers en haut des gradins du Petit Théâtre.
Est-ce que ce couloir était réservé aux spectateurs qui venaient assister au spectacle, ou bien est-ce que c'était un lieu de passage aussi ?
C'était une des motivations de notre enquête, de répondre à cette question qui n'est pas évidente. Alors, j'ai oublié de préciser que c'est un couloir qui peut être fermé, puisqu'on a des seuils de chaque côté, donc on pouvait ouvrir ou fermer les portes. Mais la présence de ces très nombreux graffitis, qui, on va le voir, n'ont pas grand-chose à voir avec les activités théâtrales, nous laisse penser que les portes étaient souvent ouvertes. Et plus globalement, les recherches que j'ai menées sur les théâtres comme lieu public dans les cités romaines en particulier, montre que c'était des espaces qui restaient ouverts en dehors des moments dédiés aux spectacles théâtraux, qui sont des lieux publics, presque, on pourrait presque dire des biens communs, puisque juridiquement, ils n'appartiennent à personne, et on doit garantir l'accès à chacun à ces espaces.
Alors, c'est pas la première fois qu'on étudie et qu'on identifie ces graffitis. Les graffitis dans ce couloir, notamment, sont au nombre de 200. On verra que vous avez un peu agrandi ce nombre avec vos travaux de recherche. Quel était l'intérêt, justement, avec ce projet Bruit de couloir, de reprendre ce corpus de graffitis pour finalement essayer de tresser des liens entre ces graffitis, de faire des ponts, de les considérer dans leur globalité?
Eh bien voilà, c'était un des enjeux. Effectivement, ces graffitis, ils ont été sans doute découverts en même temps que le couloir, c'est-à-dire à la toute fin du XVIIIe siècle, dans les années 1790. Dans les premières années, aucune mention. Dans les journaux de fouilles, qui sont pourtant assez précis sur les inscriptions, sur le déroulement des fouilles, aucune mention de ces graffitis, sans doute... Soit qu'ils n'ont pas été, peut-être les murs n'étaient pas encore bien dégagés et donc ils n'étaient pas visibles, soit que le caractère licencieux de certaines inscriptions ait conduit à jeter un voile pudique sur ce corpus. C'est à partir du début du 19e qu'on commence à avoir les premières mentions de savants qui visitent le site et qui s'intéressent en particulier à ces inscriptions, notamment les inscriptions textuelles, parce que elles donnent des informations sur la paléographie, sur l'évolution de l'écriture, l'évolution de la langue latine. Et on s'intéresse en particulier aux inscriptions qui comportent des dates, des mentions de consuls, etc. Donc la première édition, c'est milieu du 19e avec ce Raffaele Garrucci qui a inventé le terme de graffiti. Et l'édition de référence, c'est le corpus des inscriptions latines, le fameux CIL, qui est le catalogue de référence de toutes les inscriptions antiques en latin, qui comporte un volume, le volume 4, dédié aux inscriptions peintes et aux graffitis à Pompéi.
Est-ce que ces graffitis sont bien conservés, puisque vous évoquez, vous dites peut-être qu'on est passé à côté de certaines inscriptions, est-ce pas forcément toujours évident de les voir ?
Alors non, c'est pas du tout évident de les voir. Selon la profondeur de l'incision et le degré de conservation de l'enduit, ils apparaissent plus ou moins à l'œil nu. Si vous visitez le site, vous aurez peut-être la chance de les voir apparaître directement en passant dans ce couloir, mais parfois il faut vraiment se pencher ou qu'on nous les montre pour les apercevoir. La conservation en plein air des enduits à Pompéi est une problématique bien connue pour tous les décors. Ils s'effritent, il y a des lacunes qui s'agrandissent. On a pu le voir en comparant d'ailleurs les photographies d'archives qui existent de ces peintures avec l'état actuel. La surface est moins lisse que dans l'Antiquité, donc les inscriptions sont moins lisibles. Et nous, on a passé un mois au pied du mur, au pied des deux murs du couloir.
Vous avouez, je vous envie un peu quand même. C'est pas mal quand même comme métier.
On a apprécié, on mesure notre chance de pouvoir travailler dans ce cadre. Mais c'est vrai qu'il a fallu passer un mois dans le couloir tous les jours à 6 ou 7 personnes pour bien retrouver tous les graffitis qui, avant nous, avaient déjà été publiés et les localiser dans ce couloir, puisque dans les publications, on ne sait pas exactement où ils sont sur le mur. Et en découvrir presque un tiers de nouveaux, à la fois des textes et des images. Donc pour ça, c'était une connaissance intime de ces murs acquise sur le temps long. Et puis l'utilisation de lampes de poche, de torches assez puissantes qui permettent d'utiliser la lumière rasante qui est essentielle, notamment quand on travaille de jour, pour faire apparaître le mieux possible ces incisions.
Alors vous avez employé finalement deux techniques, une technique assez traditionnelle, celle du calque, et puis une technique qui a des initiales, RTI. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifie cet acronyme et en quoi cette technique photographique vous a permis justement de mettre au jour 79 nouveaux graffitis ?
Alors, donc on a effectivement travaillé en deux étapes. Une étape assez artisanale, assez classique, avec un calque de toutes les inscriptions qu'on avait observées à la lampe de poche. Et puis, tout récemment, en septembre 2025, on a pu faire une deuxième opération de terrain qui n'est pas celle pendant laquelle on a découvert les inédits. En fait, les inédits, on les a découverts avec nos lampes de poche et notre observation traditionnelle. Mais on a eu connaissance d'un développement de cette technique qui existe désormais depuis plusieurs dizaines d'années, la RTI, donc Reflectance Transformation Imaging, qui est une technique photographique qui consiste à prendre plusieurs photographies d'un même objet avec des lumières rasantes variables et ensuite à créer un modèle numérique à partir de ces photographies qu'on va pouvoir rééclairer virtuellement pour observer à distance sur son ordinateur cet objet comme si on tournait une lampe de poche autour de l'objet. Donc ça existe depuis longtemps, c'est d'ailleurs très utilisé en épigraphie puisqu'on travaille par définition sur des micro-reliefs ou sur des reliefs difficile à observer. Nous, ce qui nous intéressait dans notre approche de ce corpus de graffiti, la nouveauté de notre approche, c'était de les mettre ensemble, les uns par rapport aux autres, de faire une carte, une micro-topographie à l'échelle du couloir de toutes ces inscriptions. Et donc, on ne pouvait pas procéder image par image, c'était pas ça qui nous intéressait. Et on a découvert un développement récent de cette technique qui est de la développer sur un objet qui dépasse le cadre d'une photographie. Et donc on a mis en place un partenariat avec une entreprise qui est pionnière dans ce domaine-là qui s'appelle Mercurio Imaging, fondée par Éloi Gattet, qui a travaillé avec nous donc en septembre dans le couloir. Et grâce à la construction d'un dôme de prise de vue qu'il a conçu sur mesure pour nous, on a passé 5 nuits pour avoir une lumière contrôlée, à couvrir entièrement les deux parois du couloir, avec pour chaque photo, eh bien des prises de vue en lumière variable grâce au LED du dôme, sur lesquels, à partir desquels, il crée actuellement un modèle complet en RTI sur lequel on pourra en tout point du mur venir éclairer la zone. Alors, est-ce que ça va nous permettre de découvrir de nouveaux graffitis? C'est possible, même si ça serait encore une grande surprise. On s'attendait pas déjà à découvrir autant d'inédits. Mais surtout, ça va nous aider d'une part à revérifier nos relevés, à les compléter, à les refaire sur une plateforme numérique qu'on est en train de construire et à les montrer et à permettre à d'autres que nous d'avoir cette expérience d'exploration de la paroi.
Et cette vue d'ensemble, justement, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme information concernant, si on parle de dessin, on parle de texte gravé dans ces graffitis, si on se concentre par exemple sur les dessins, est-ce qu'on constate des choses à partir de cette vue d'ensemble que vous réalisez ?
Alors, c'est difficile de séparer les textes et les dessins. Ouais. Et par exemple, à propos des dessins, on a pu se poser... Alors, on observe par exemple qu'il y a des zones de concentration uniquement de dessins et des zones où se mêlent texte et dessin. Donc on se pose la question, pourquoi ? Comment ça s'explique ?
C'est quoi les dessins d'ailleurs ?
Alors, des dessins, on a des dessins qu'on retrouve un peu partout à Pompéi. Énormément de bateaux, des animaux, des personnes, des personnages, alors des portraits plus ou moins caricaturaux, plus ou moins schématiques.
Des gladiateurs,
effectivement, en grand nombre. Ça, c'est une thématique qui obsède visiblement les Romains. D'ailleurs, on a trouvé un dessin inédit d'un couple de gladiateurs affrontés qui est d'une fraîcheur assez étonnante et d'une vivacité qui nous permet de nous interroger avec un regard neuf, à mon avis, sur les capacités graphiques de ces personnes. On s'est beaucoup interrogé sur la littératie, sur l'alphabétisation, etc., à propos d'écriture, mais on s'est peu interrogé sur les compétences graphiques et la culture visuelle qui va avec. Et
donc, parce que ces deux gladiateurs, finalement, ils sont réalisés de façon technique. Il y a une complexité dans leur mouvement.
Il y a une composition du schéma d'ensemble. Ils sont affrontés dans une position, tous les deux, de fente, assez classique dans les images de gladiateurs qu'on retrouve sur des images de professionnels, sur les peintures, sur les lampes à huile, sur divers objets de la vie quotidienne. Mais ils reflètent aussi sans doute l'expérience en première personne du spectacle de la personne qui a dessiné ça et qui arrive à exprimer un mouvement que, pour l'instant, je n'ai retrouvé sur aucune image qu'on connaisse par ailleurs, avec une torsion du buste du gladiateur qui est le mieux conservé, qui montre vraiment une vision à 360 degrés de l'affrontement et un certain dynamisme. Et si on compare cette image inédite avec les quelques autres couples de gladiateurs qu'on trouve dans le couloir, ou gladiateurs isolés, voire même peut-être une gladiatrice, c'est une hypothèse qu'on soutient sur un des dessins, eh bien, si on leur accorde une attention scrupuleuse, sans dire « ah voilà, ce sont des gribouillis, ce sont des dessins d'enfants », comme on le fait souvent quand on est confronté à ce type de source, mais qu'on regarde en détail les lignes qui appartiennent à ces dessins, en essayant de les distinguer des simples traits ou traces de passage, eh bien on observe que les personnes qui les ont dessinés ont réussi à trouver des moyens graphiques simples d'exprimer peut-être le bruit, l'affrontement, la violence du choc. Un jeu de jambes, on a une jambe dédoublée qui montre peut-être un jeu de jambes du
le
personnage.
Le mouvement qui est voilà. Déjà représenté. Puisque vous parlez, Héloïse Atelier-Taillefer, de ces personnes, est-ce qu'on en sait plus sur qui a gravé ces graffitis à Pompéi ? Est-ce qu'on a une idée même vague de leur identité ?
Alors c'est un des grands enjeux de notre enquête en cours d'interprétation des inscriptions sur lesquelles on a travaillé, qu'on a resitué dans l'espace, qu'on a remis en lien les uns avec les autres. Et donc on approche, alors c'est une question très difficile parce que ils sont par nature anonymes. Ce ne sont pas les magistrats dont on connaît les carrières grâce aux inscriptions officielles ou grâce aux textes littéraires qui nous sont parvenus par la tradition manuscrite. Mais on a quand même divers moyens d'approcher ces personnes.
Déjà, je vous interromps, tout le monde ne savait pas écrire à l'époque.
Alors, tout le monde ne savait pas écrire, mais on a quand même visiblement une alphabétisation même d'assez faible niveau, relativement large, de gens qui sont en mesure d'écrire en tout cas certaines choses et de déchiffrer une partie des messages, puisque sinon ça servirait à rien d'écrire sur les murs. On peut se poser la question, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes, par exemple? Pour ça, on s'intéresse aux noms de femmes qui apparaissent dans notre corpus, alors qu'ils ne sont pas toujours... Le nom inscrit n'est pas toujours le nom de la personne qui écrit, ça peut être une personne interpellée ou mentionnée. Mais on a par exemple deux inscriptions écrite à la première personne, qui mentionne des femmes qui désignent leur bien-aimé. C'est possible que ça ait été écrit par des femmes, et en tout cas, ça nous conduit, pour chaque nom dont on n'a pas la terminaison, par exemple, à émettre l'hypothèse c'est un homme ou c'est une femme, et à ne pas partir directement sur l'hypothèse masculine. On peut aussi se demander si ce sont des adultes ou des enfants. Je vous l'ai évoqué à propos des dessins, mais on peut se poser la question sur les textes. On a quelques exemples, par exemple, d'alphabet sur nos deux murs, on en retrouve un peu partout dans Pompéi, qui sont des exercices scolaires qui peuvent très bien avoir été inscrits par des enfants. On en a d'ailleurs un ou deux inédits dans notre corpus nouveau là. Voilà, donc ces questions se posent. On peut aussi se poser des questions de rang social et on a tenté diverses approches. Une approche par les noms. En comparant les noms qui apparaissent dans ces graffitis avec les attestations de ces noms dans d'autres contextes, on arrive à savoir s'il s'agit de manière assurée ou non potentiellement d'esclaves ou au contraire de citoyens qui portent les trois noms romains, etc. Mais bon, c'est souvent assez limité, ça nous permet de faire des hypothèses, mais ça ne tranche pas la question. Et puis une autre voie d'accès, c'est la culture de ces personnes. Et en accordant là encore une attention très scrupuleuse, très scientifique à des inscriptions qui paraissent au premier abord banales, vulgaires, obscènes, eh bien on finit par trouver des éléments sur leur culture. Par exemple, toutes les inscriptions obscènes de ce couloir, qui ont expliqué le silence jeté sur ces sources.
Elles disent quoi si on doit déflorer un peu ces inscriptions, ça dit quoi en gros?
Bon, ce sont des insultes à caractère sexuel en particulier. Et si on les rapproche d'autres sources littéraires, cette fois qu'on connaît de manière très fragmentaire, eh bien, on se rend compte qu'il y a des scripts dans les faits qui sont mentionnés, sont communs avec ce qu'on connaît des spectacles de mime, qui était un des genres donnés dans les théâtres en particulier. Donc, c'est pas une citation des spectacles qui ont lieu au théâtre, mais on a des structures communes qui montrent que, ça devait structurer un peu l'imaginaire de ces personnes. On peut aussi s'interroger sur l'intérêt profond pour les gladiateurs dont on a des dessins, des listes de noms, des nombres de victoires. Qu'est-ce que ça nous dit de cette société? On a aussi quelques attestations d'une attitude assez irrévérencieuse vis-à-vis des inscriptions officielles, de détournement d'inscriptions officielles de formulaires officiels, de formes d'inscriptions officielles pour mentionner par exemple un acte de prostitution qui aurait eu lieu peut-être dans ce couloir.
Une forme de satire
dissimulée. En tout cas de jeu avec un langage officiel et une sorte d'appropriation des codes par cette population qui a sa propre culture et sa créativité.
Et il y a aussi des messages beaucoup plus chastes, beaucoup plus beaux, beaucoup plus touchants que ces vulgarités qui sont le propre de l'humanité en société. Quels sont ce genre de messages qui sont passés sur les murs?
Alors oui, on a par exemple, on a deux déclarations d'amour, une connue depuis longtemps et une inédite qui vient donc renforcer notre compréhension de cet ensemble, qui sont le fait, enfin en tout cas, qui mentionnent deux femmes comme autrices. L'une qui dit « Métais aime son cher Crestus ». Que Vénus pompéienne leur soit propice à tous les deux et leur accorde je ne sais plus comment est formulé et qu'ils vivent toujours dans l'harmonie. Voilà, ça c'est celle qu'on connaissait anciennement. Celle qu'on a découverte en 2022 dit Erato, donc c'est un nom de femme, et puis ce qui est intéressant c'est que c'est sans doute un nom servile plutôt d'après les études onomastiques. M, il y a une lacune, il y a un trou dans l'enduit, donc on ne connaît pas le nom de la personne. Sous-homme, son. Donc M, son cher, et son nom restera toujours inconnu. Alors là, on peut raisonner sur le nom de la personne, Erato, et puis on peut raisonner sur la forme sous-homme que mon collègue Louis Autin, latiniste, interprète comme étant la trace d'une certaine, un certain niveau de langage, un certain stade d'évolution de la langue latine, etc.
Est-ce que tous ces graffitis sont inscrits en latin?
Alors non, le latin est majoritaire, mais on a aussi des graffitis en grec, qui était la deuxième langue couramment parlée dans tout le monde antique à cette époque. Et puis on a une langue complètement inattendue, dont c'est d'ailleurs la seule attestation dans tout l'Occident antique, qui est une écriture, qui est le saphaïtique. Une écriture qui note une langue proto-sémitique qui était une langue utilisée dans des inscriptions par des nomades qui vivent dans le désert, dans l'actuel entre la Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Donc on est assez loin de Pompéi et on s'est longtemps interrogé sur la présence de. Donc c'est une liste de noms de personnes qui indiquent leur nom et le nom de leur père. On a montré par notre spatialisation de ces graffitis qu'ils étaient tous regroupés dans un endroit du couloir. Il y a une sorte de noyau, de concentration. Et l'explication la plus probable qui a été avancée dès le 19e siècle et reprise par un collègue Kyle Helms récemment et qui nous convainc tout à fait est qu'il s'agit d'auxiliaires qui auraient été intégrés dans une légion romaine, la 3e légion, dont on sait qu'elle avait été mobilisée pendant l'année de guerre civile en 68-69 après Jésus-Christ et que cette légion avait logé en campagne l'hiver suivant. Et donc on aurait là, et il se trouve qu'on a des inscriptions qui sont le fait des Tertiani, donc ceux de la 3e, qui ont écrit sur ce mur. Donc voilà, on voit cohabiter des soldats et des auxiliaires qui séjournent ensemble dans ce couloir, dans une modalité qu'on ne connaît pas bien.
C'est incroyable, finalement, tout ce qu'on peut retirer quand même comme information de ces graffitis. Et la bonne nouvelle, c'est que le site de bruit de couloir de ce projet de recherche va pouvoir mettre à disposition très prochainement aux personnes qui sont curieuses de ces graffitis, toutes ces images, tous ces graffitis que vous avez identifiés.
Effectivement, on est en train de travailler, et les derniers réglages sont en cours, à une plateforme en ligne sur laquelle on pourra se promener sur ces deux murs, les éclairer avec la RTI et accéder à toutes les données qu'on a étudiées.
Et le lien sera bien sûr partagé sur la page de l'entretien archéologique. Merci beaucoup à vous, Héloïse d'Atelier-Taillefer, de nous avoir fait voyager dans ces graffitis de Pompéi. Un grand merci à toute l'équipe, merci à Olivier Arnay aujourd'hui à la technique, merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.